La France vient d'envoyer un émissaire diplomatique aujourd'hui qui devrait rester jusqu'à demain. Est-ce que c'est un signe qu'il y a une réelle crainte que les choses s'enveniment avec l'Iran qui a repris donc la production d'uranium enrichi dimanche, ou est-ce que c'est juste pour l'instant du chantage?
Pour l'instant, il s'agit d'une initiative du président français qui vise à la réduction des tensions entre l'Iran et les États-Unis, car la France a beaucoup d'intérêts dans la région du Golfe, notamment aux Émirats arabes unis, et cherche un apaisement des tensions parce que les partenaires de la France souhaitent également cette accalmie.
Et justement, est-ce que cet émissaire va en Iran au nom de l'Union européenne? Est-ce que les autres pays européens ne sont pas prêts à s'engager de la même manière que la France?
Je pense que le président Macron a une vision gaullo-mitterrandienne des relations internationales. Il veut faire porter la voix de la France de manière indépendante et son conseiller diplomatique est un spécialiste du Moyen-Orient, donc il est très connu dans la région et qui est un bon spécialiste de la région. Donc il a une fine connaissance des dossiers. La France a une bonne analyse de la situation en Iran par la présence de son ambassadeur à Téhéran. Elle le fera en coordination notamment avec l'Allemagne, qui a aussi des intérêts similaires à ceux de la France en Iran. Et en général, la France et l'Allemagne ont une position très proche sur le dossier iranien.
Donc l'Iran qui reprend la production d'uranium enrichi, on a appris donc qu'ils sont à 4,5%, donc au-delà de la limite de 3,67% fixée par l'accord signé en 2015. Est-ce que l'Iran de cette manière laisse une porte ouverte pour la négociation? Est-ce que c'est une manière de négocier ou est-ce qu'il y a une vraie menace d'un conflit?
Pour l'instant, du point de vue iranien, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre parce que l'Iran se trouve dans une impasse. Le guide suprême a signifié qu'il refusait les négociations avec les États-Unis. Et donc, pour l'heure, l'Iran ne peut pas parler directement avec les États-Unis, donc il y a besoin d'intermédiaires. Après, est-ce que la France sera plus performante que les autres intermédiaires, à savoir le sultanat d'Oman ou le Premier ministre japonais, cela reste à voir dans les prochaines semaines.
Et justement, pourquoi l'Iran a choisi de faire pression sur l'Union européenne, sur les partenaires européens? Est-ce que c'est un peu le maillon faible? Est-ce qu'il y a plus de marge de manœuvre qu'avec les États-Unis, en tout cas?
Je pense que le problème n'est pas tellement du côté iranien, il est du côté américain, avec cette escalade américaine face à l'Iran, la violation par les États-Unis de l'accord sur le nucléaire il y a plus d'un an. Donc l'Iran a fait preuve de patience, a essayé de responsabiliser ses partenaires européens. Mais l'idée qui est en vogue à Téhéran, savoir diviser les Européens et les Américains, est assez difficile à mettre en œuvre parce que les intérêts qui unissent les États-Unis et les Européens sont plus grands que les intérêts qui unissent les Iraniens et les Européens. Donc in fine, les partenaires européens de l'Iran ont tendance à trancher en faveur des États-Unis. Donc il est probable que cette médiation échoue. Parce que comme je vous le disais, sur les grands dossiers, les Européens et les Américains sont d'accord, qu'il s'agisse du programme balistique, de la politique régionale iranienne ou du non-respect des droits de l'homme par la République islamique. Le point de désaccord entre Bruxelles et Washington porte seulement sur la méthode. Comment régler la question nucléaire iranienne? Par la voie militaire ou par l'asphyxie économique du point de vue de John Bolton et de Donald Trump, et par la diplomatie du point de vue des Européens.
C'est Donald Trump qui avait empêché il y a quelques semaines une attaque en riposte à la neutralisation d'un drone. Est-ce que vous pensez que les deux pays sont encore dans cet état d'esprit d'éviter une guerre ou l'escalade pourrait à tout moment dégénérer maintenant avec cette nouvelle...
La situation est tendue dans tous les cas et donc l'Europe doit remplir sa part du contrat nucléaire, à savoir donner des bénéfices économiques à l'Iran, notamment en achetant du pétrole iranien. Mais est-ce que les Européens sont prêts à faire preuve d'indépendance vis-à-vis des États-Unis en affirmant leur souveraineté économique? C'est peu probable.
Est-ce que le snapback, donc cette clause qui est prévue dans l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015, qui prévoit le retour de sanctions si l'Iran viole cet accord, est-ce qu'il pourrait être utilisé prochainement? Est-ce que c'est sur la table?
En fait, c'est une question qui est totalement anodine aujourd'hui, puisque les sanctions américaines sont bien plus puissantes que les sanctions internationales des Nations Unies, et les entreprises européennes, à la quasi-unanimité, suivent les recommandations du président Donald Trump. Donc finalement, aujourd'hui, l'Iran se trouve dans une situation pire que celle dans laquelle il se trouvait à l'époque du président Obama, à l'époque où ces sanctions que vous évoquez étaient en vigueur. Donc finalement, avoir signé l'accord sur le nucléaire pour l'Iran, sur le plan économique, est pire que la situation économique dans laquelle il se trouvait à l'époque d'Ahmadinejad.
Mais justement, l'Iran a déjà dit que si l'Union européenne, en tout cas les pays européens signataires de l'accord, venaient à ne pas aller dans leur sens. Enfin, il y a un ton qui est assez menaçant quand même.
Effectivement, l'Iran se sent, disons, trompé hein, par les Européens. L'Europe suit l'embargo américain. L'Europe, de fait, est en violation de ses engagements sur l'accord sur le nucléaire. Donc, du côté iranien, il y a une surenchère qui risque d'avoir lieu.
Donc pour vous, c'est aujourd'hui aux États-Unis de faire un pas vers l'Iran, de calmer le jeu ?
Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cas, les Européens ne sont pas en capacité d'agir. Donc la seule puissance qui est en capacité de définir l'avenir de la stabilité au Moyen-Orient, ce sont les États-Unis.